Chers amis, permettez-moi de vous donner la solution de la part de notre archevêque, Monseigneur Jean de Caréopolis, exarque du patriarche œcuménique Bartholomée. Notre thème aujourd'hui est le concile de l'Église orthodoxe à Crète en 2016, qui est appelé officiellement le Saint et Grand Concile orthodoxe. Les 10 de 14 églises orthodoxes autocéphales ont participé à ce concile. Avant l'histoire du concile, je veux mettre en lumière deux questions. La situation canonique dans l'Église orthodoxe, comme elle le fait à notre époque, et ainsi comment l'Église orthodoxe préparait ce concile. L'Église orthodoxe, à notre temps, se compose de 14 églises autocéphales qui reconnaissent les uns les autres tels. Au début, j'énumère les 9 patriarcats, dont les chefs portent le nom du patriarche. C'est l'Église de Constantinople où, à notre manière, nous disons le patriarcat œcuménique de Constantinople. Après, le patriarcat d'Alexandrie et de toute Afrique, le patriarcat d'Antioche et de tout l'Orient, ou à notre manière, l'Église orthodoxe d'Arabe. Le patriarcat de Jérusalem, l'Église russe ou le patriarcat de Moscou et de toute la Russie. Patriarcat serbe, le patriarcat roumain, le patriarcat de Bulgarie, l'Église géorgienne ou le patriarcat de Géorgie, ou en autre manière de Géorgie, le catholicossa de Géorgie. Les 5 autres églises orthodoxes autocéphales ont à la tête des évêques avec le titre de l'archevêque ou métropolite. Mais ces églises sont égales au patriarcat. Voici ces 5 églises. L'église de Chypre, l'église de la Grèce, l'église de Pologne, l'église de Tchécoslovaque, l'église orthodoxe d'Albanie. En plus de ces 14 églises, dispose de l'église orthodoxe en Amérique, qui a la communion dans les sacrements avec toutes les autres églises orthodoxes. L'autocéphalie de l'église orthodoxe en Amérique, accordée par le patriarcat de Moscou en 1970, mais elle n'est reconnue que par les églises russes, bulgares, géorgiennes, Pologne, tchécoslovaques. Certaines églises autocéphales orthodoxes ont des églises autonomes dans leur composition ou des diocèses avec une large autonomie. Nous pouvons compter à peu près les 19 églises autonomes ou diocèses autonomes. Par exemple, il y a l'église orthodoxe de Finlande, rattachée canoniquement au patriarcat œcuménique de Constantinople. Où il y a l'église orthodoxe de Japon, rattachée canoniquement au patriarcat de Moscou. Ou par exemple, notre diocèse, notre archevêché, qui s'appelle Exarchat des paroisses de la tradition russe en Europe occidentale, rattaché canoniquement au patriarcat œcuménique de Constantinople. Ça, c'est clair et évident que chaque confession en notre temps a plusieurs schismes. Et bien sûr, il y a des plusieurs schismes à l'orthodoxie sur les questions canoniques, rituelles, politiques. C'est pourquoi certains groupes orthodoxes schismatiques existent dans le monde. Vous devez bien le savoir. Malheureusement, aujourd'hui, il y a deux églises non canoniques qui n'ont pas de communion dans les sacrements avec les églises orthodoxes. Mais ces églises sont très grandes par le nombre de croyants. C'est le patriarcat de Kiev, l'église non canonique. C'est l'ancienne partie de l'église orthodoxe ukrainienne autonome du patriarcat de Moscou. Et la deuxième, l'église orthodoxe macédonienne. C'est l'ancienne diocèse autonome du patriarcat serbe. C'est un vrai dramatique pour nous parce que 30% des croyants en Ukraine ont quitté l'église canonique, ils sont fidèles au patriarcat de Kiev non canonique. Et presque tous les Macédoniens sont les fidèles de l'église macédonienne. Sans aucun doute, nous voyons deux schismes pour des raisons politiques. Ces églises ont le soutien de leur gouvernement de l'Ukraine et de Macédoine. Selon l'ecclésiologie orthodoxe, bien sûr, ces églises ont le droit d'obtenir le statut de l'autocéphale. Mais ils n'ont pas le droit de s'attribuer ce statut. Ils doivent obtenir le statut de l'autocéphale par l'église mère et avec le consentement de toutes les autres 14 églises canoniques orthodoxes. C'est compliqué de comprendre, bien sûr. Bon, surtout pour les familles protestantes. Vous avez la Fédération des églises protestantes. Bon, et comme nous avons entendu aujourd'hui, chaque année en Afrique est apparue une nouvelle église, un nouvel groupe, je ne sais pas, une nouvelle secte. Je veux aussi remarquer que, à l'orthodoxie, le patriarche de Constantinople exerce une primauté d'honneur parmi les primats des églises orthodoxes, premier parmi ses égaux. Il est en quelque sorte le garant des valeurs de l'orthodoxie. En plus, je veux aussi attirer votre attention sur le fait que les chrétiens occidentaux confondent souvent les églises orientales. Par exemple, dans l'Est, il y a d'autres églises. Il y a la famille de 6 églises, arméniennes, coptes, éthiopiennes, églises érythréennes, l'église malankarskie. Ils ne reconnaissent que les 3 premiers conciles œcuméniques. Dommage, très dommage, c'était le schisme du 5e siècle. C'est ça. Il y a aussi, en Irak et en Iran, l'église de l'Orient qui reconnaît seulement les 2 premiers conciles. C'est encore le schisme. Désolé, le schisme de sujet dogmatique. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe en dialogue avec ses églises. Bien sûr, par exemple, pour l'Église russe, est très proche l'Église arménienne. Bon, l'Église grecque, toujours contact avec l'Église copte. Ça, c'est clair. Voilà. Et proche d'Orient, notre Église orthodoxe d'Antioche, toujours à plusieurs contacts avec l'Église syriaque. L'histoire de notre concile orthodoxe. Après la séparation dramatique des églises de l'Est et de l'Ouest, l'Église orthodoxe avait des plusieurs conciles locaux et des conciles des évêques des 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Pour la première fois, les voix sur la nécessité de convoquer le concile pan-orthodoxe ont commencé à sonner dans le milieu du 19e siècle. Le patriarche œcuménique Joachim III, dans son encyclique du 12 juin 1902, avait parler aux églises autocéphales pour le sujet d'un concile pan-orthodoxe. Mais pour des raisons connues historiques, comme la Première Guerre mondiale, la Révolution russe, etc., les églises orthodoxes n'ont pas pu organiser la première réunion. En 1930, le patriarche œcuménique Photius II convoqua un comité de préparation inter-orthodoxe au monastère de Vatopédi, au Monatos, pour aborder 17 sujets. À cette époque, il y avait 17 sujets. Au mettre dans l'ordre du jour d'un futur concile, sujet concernant les disciplines, le calendrier, les relations des églises orthodoxes entre elles, ainsi qu'avec les autres églises. Il y a un fait intéressant. Après la Deuxième Guerre mondiale, Staline, c'est vrai, Staline, a voulu organiser le concile pan-orthodoxe à Moscou. Mais les Grecs ont refusé catégoriquement de participer. Cependant, le reste des églises n'était pas contre. Il est compréhensible, comme la plupart des églises orthodoxes se trouvaient sur les territoires de l'Union soviétique et dans les pays pro-soviétiques. En conséquence, en 1946, à Moscou, il y avait une réunion des chefs des églises orthodoxes. Mais cette réunion n'a pas porté le nom du concile. En 1951 et en 1952, le patriarche œcuménique Athénagoras adressait aux patriarches et aux responsables des églises un projet d'organiser une réunion orthodoxe. La proposition d'Athénagoras n'a pas eu de conséquences immédiates. C'est seulement après que l'Église de Rome eut annoncé la nouvelle du Concile Vatican II et déployer une intense activité pour garantir la participation des autres églises au concile, que commence aussi la préparation de la première conférence pan-orthodoxe à Rhodos en 1961. Il faudra attendre la quatrième conférence pan-orthodoxe qui se déroulera à Chambézy, dans le centre orthodoxe du patriarche communique en 1968, pour voir se créer un secrétariat en vue de la préparation d'un saint et grand concile. Il y a pour siéger, ayant pour siéger le centre suisse né à l'endemain du conseil œcuménique des églises. Notre patriarche Bartholomée a deux résidences à Istanbul, à Constantinople, dans le quartier qui s'appelle Fanar, et deuxième en Suisse, à Chambézy. Et c'est pour le sujet de politique. Vous comprenez que les Turcs toujours attaquent les chrétiens. Bon, et à l'époque, il y avait des grands problèmes de rester le patriarche des Grecs en Istanbul. Voilà. Donc, de cet organe chargé de recevoir les propositions sur les 10 thèmes. Il y avait, avant, nous avons entendu 17 thèmes, maintenant. Il ne reste que 10 thèmes. Viendra ensuite la convocation de la première conférence préconciliaire pan-orthodoxe, toujours à Chambézy, du 21 au 28 novembre 1962. Au cours de cette réunion, la question des thèmes sera abordée avec une procédure de consensus très complexe. Le travail s'oriente donc autour de thèmes très vastes, trois de nature, on peut dire interne, le diaspora, l'autonomie, l'autocéphalie, le diptyque, trois relativement à la pratique pastorale, comme le calendrier, le sacrement du mariage, le règle du carême, et trois de caractère externe, dialogue bilatéral et multilatéral, l'orthodoxie et le reste du monde chrétien, la contribution des orthodoxes à la paix, la liberté, la solidarité, l'amour, la libération. La deuxième conférence préconciliaire pan-orthodoxe passait en 1982. Et la troisième conférence préconciliaire pan-orthodoxe a eu lieu en 1985, toujours à Chambézy. La quatrième conférence préconciliaire pan-orthodoxe a née se réunir qu'en 2009 à Chambézy. Vous avez, il y avait une grande pause. Nous comprenons cette lacune dans le temps, depuis 1985, et les grands changements ont eu lieu dans le monde en raison de la fin de l'ère soviétique en URSS et en Europe de l'Est. La conférence de 2009 approuva le document sur la diaspora, signé par les assemblées épiscopales de 12 régions sur la base d'une procédure spécifique fixée par la conférence même. En mars 2014, la synaxe des patriarches réunie au Fanar. Au Fanar, c'est le quartier d'Istanbul, où il y a la résidence de notre patriarche Bartholomée. C'est le quartier grec jusqu'à aujourd'hui. Donc, les synaxes des patriarches réunis au Fanar approuvaient les documents préparatoires. La commission spéciale inter-orthodoxe, présidée par les délégués du patriarche, les métropolites Jean de Pergame et Emmanuel de France, s'est réunie à Chambézy au mois d'octobre 2014, au mois de février 2015, et pour finir en mars et en avril 2015. La cinquième conférence préconciliaire panorthodoxe prévue au mois d'octobre 2015. Avec Vite de Cono. Au début, il y avait 17 sujets, après 10 sujets, maintenant 8 de Cono. Avec le vide de commun approuvé à l'unanimité et deux, ce sur l'autocéphalie et sur les diptyques en absence de consensus. La synaxe des primats se réunit à Chambézy en janvier 2016 avec l'intention de parvenir à débuter le concile lors de la Pentecôte 2016. La synaxe a approuvé la décision du concile de déplacer le lieu de la réunion à l'Académie de théologie de Kolymbari sur l'île de Crète. Parce qu'à l'époque, à ce temps, il avait des grands problèmes en Turquie. Bon. Il avait des putschs, il avait des guerres, bon, il avait des problèmes entre Turquie et la Russie, etc. L'agenda du concile se réduisait donc à 6 thèmes. Finalement, le concile abordait que 6 thèmes. Ce n'est pas 17, ce n'est pas 10, 8, 6 thèmes. La mission de l'Église orthodoxe dans le monde, la diaspora orthodoxe, l'autonomie et la façon de la proclamer, le sacrement du mariage, l'importance du jeûne, l'importance du carême, les relations de l'Église orthodoxe avec le reste du monde chrétien. La date était fixée selon le calendrier orthodoxe, donc entre le 17 et le 26 juin 2016. Les langues officielles seraient le grec, le russe, l'anglais, le français, l'arabe. Le 28 mars 2016, à Chambézy, avait lieu la première réunion des membres du secrétariat panorthodoxe du Saint et Grand Concile. Le 29 mars, où il y avait représentants de chaque église, tous les 14 églises orthodoxes participaient le 29 mars. Ils ont signé tous les papiers préparatoires pour le concile. Mais peu de semaines après, commençaient déjà à se manifester des résistances envers un concile. L'église d'Antioche avait fait part de ses doutes envers un concile qu'elle ne voulait pas tant qu'elle n'aurait pas résoudre son conflit avec le patriarcat de Jérusalem. De fait, l'Église de Bulgarie demanda de renvoyer à plus tard le concile par une décision synodale le 1er juin. Le 10 juin, le Saint-Synode de l'Église géorgienne annonçait sa décision de ne pas participer. L'Église russe, le 10 juin, ont décidé de soumettre l'examen de la question au Saint-Synode convoqué par le patriarche Cyrille le lundi 13 juin. Finalement, le synode de l'Église russe a demandé au patriarche œcuménique de renvoyer plus tard le concile. Tout autre fut la décision de l'Église serbe. Après une longue discussion synodale, pendant le jour et la nuit, il fut décidé de partir pour le concile. La réaction du patriarche œcuménique Bartholomée. Le 15 juin, que le patriarche œcuménique ne pouvait pas changer la décision de la synaxe qui avait recueilli les signatures de l'ensemble des 14 patriarches et primats des églises. Donc, finalement, les 10 de 14 églises autocéphales sont restées de participer en concile pan-orthodoxe. Comment vous expliquer? Moi, je ne suis pas responsable de ces 4 églises. Je ne suis pas compétent de vous répondre pourquoi ils ont refusé de participer. Mais moi, comment vous dites? Moi, je sais que l'église d'Antioche a un conflit canonique avec l'église de Jérusalem. À mon avis, c'est à cause de la guerre en Syrie. C'est ça. L'église bulgare se trouve toujours, comme dit français, toujours dans le conflit avec les églises grecques. Bon, et avec l'église de Serbe. L'église géorgienne est toujours très conservatrice. Voilà. Le plus grand mystère, pourquoi l'église russe, le patriarcat de Moscou, refusait de participer au concile. Personne ne le comprend. Et je tiens à votre attention que tous les 14 églises ont signé tous les documents préparatoires. Et ces 4 églises ont refusé de participer juste à la veille du concile en juin 2016. Il ne reste qu'un mois. Voilà. Nous donc, le début des travaux du concile. Les travaux du concile ont commencé le lundi 20 juin, mais déjà le 18, c'était tenu l'ouverture du concile avec les cérémonies d'accueil de la part des autorités grecques et à la célébration des Vêpres de Pentecôte dans l'église Saint-Tite à Héraclion. Le lendemain matin, à la célébration de Pentecôte, était présent le président de la République grecque. Et au même moment, le pape François saluait de Rome le concile pan-orthodoxe en ces termes. Aujourd'hui, solennité de la Pentecôte selon le calendrier julien suivi par l'Église orthodoxe avec la célébration de la divine liturgie a débuté en Crète le concile pan-orthodoxe. Unissons-nous à la prière de nos frères orthodoxes en invoquant l'Esprit Saint pour qu'il assise de ses dons les patriarches, les archevêques et les évêques réunis en concile. Après les liturgies, au début du travail, le patriarche Bartholomé a considéré très clairement comme un affront la démission des quatre églises qui avaient dans un premier temps signé les documents préparatoires. Mais le patriarche ajouta aussi qu'il espérait que les absents allaient encore venir aux travaux. Pour moi, c'est un peu difficile de vous exprimer l'atmosphère du concile parce que je ne suis pas le témoin, je ne suis pas le membre du concile. Bien sûr, il y a beaucoup d'importance dans les documents, les encycliques et les messages du concile pour la vie intérieure de l'Église orthodoxe et pour le monde extérieur. Moi, je vais me concentrer uniquement sur quelques aspects. L'aspect de l'unité des églises orthodoxes, les questions de la diaspora, les questions du mariage, et bien sûr, sur la question de l'écuménisme. L'unité des églises orthodoxes. Ce message est adressé principalement pour les orthodoxes et surtout pour les églises qui ne sont pas venues au concile. Mais, à partir de cette thèse antérieure, et vous pouvez aussi comprendre comment l'Église orthodoxe voit le but final de l'unité de toutes les églises chrétiennes. Je peux vous lire. Je peux vous lire un petit... thèse de message du Saint Grand Concile. L'Église orthodoxe exprime son unité et sa catholicité dans le Concile. Sa concilarité façonnait son organisation, la manière par laquelle elle prend des décision et la détermination de son destin. Les églises orthodoxes autocéphales ne sont pas une fédération des églises. Mais l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Chaque église locale, célébrant la divine Eucharistie et la présence et la manifestation locale de l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Voilà. Pour le sujet de diaspora, nous, d'abord, il faut bien comprendre qu'au XXe siècle, à peu près 5 ou 6 ou 7 millions, c'est difficile de comprendre combien, s'installer en Europe occidentale, en Amérique Nord et Amérique Sud, à l'époque en Chine, en Australie, en cas de la révolution russe. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de réfugiés de l'ancien empire russe. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de réfugiés de tous les pays pro-soviétiques. Voilà. C'est pourquoi c'est vrai, par exemple en France, nous avons à peu près 700 000 orthodoxes. Moi, je pense qu'après-midi, nous pouvons parler pour le sujet de nombreux orthodoxes ou des autres chrétiens catholiques ou protestants en France. Parce que nous pouvons compter 1 milliard de chrétiens dans le monde, mais combien parmi eux participent régulièrement à l'Eucharistie? Oui, je ne sais pas. Nous comprenons bien que la majorité des chrétiens viennent toujours pour les obsèques de ses membres de famille. Voilà. C'est le mariage aussi, bon. Le baptême, voilà. Voilà. C'est les fidèles comment, dans le voiture qui vient toujours. Voilà. Donc, pour le sujet de diaspora, c'était avant de notre concile, chaque région, comme en Europe occidentale ou en Amérique, il y a à peu près 15 ans, il est apparu d'abord les conférences, maintenant les assemblées épiscopales. Des églises orthodoxes. Voilà. Et c'est pourquoi le concile pan-orthodoxe bien confirmé la constitution des orthodoxes dans la diaspora. Chaque église locale, la diaspora orthodoxe dans différents pays, il a été décidé de continuer le fonctionnement des assemblées épiscopales jusqu'à l'application de l'article canonique. Elle se compose des évêques canoniques qui relèvent et continuent à dépendre d'une église autocéphale. Le fonctionnement régulier de ces assemblées épiscopales garantit le respect du principe orthodoxe de consélérité. Et le deuxième sujet. Donc, le concile vient constater les plusieurs régions où nous orthodoxes, nous devons avoir l'assemblée épiscopale. Les régions dans lesquelles des assemblées épiscopales seront créées dans une première étape sont définies comme suite: A, Canada, B, États-Unis d'Amérique, C, Amérique latine, D, Australie, Nouvelle-Zélande et Océanie, E, Grande-Bretagne et Irlande, F, France, G, Belgique, Hollande et Luxembourg, H, Autriche, I, Italie, Malte, J, Suisse, K, Allemagne, I, pays scandinaves, hormis la Finlande, mais Espagne et Portugal. Les évêques de la diaspora qui résident dans la diaspora et ont les paroisses dans plusieurs régions seront aussi membres des assemblées épiscopales de ces régions. Sujet du sacrement du mariage. Ah là là.
Pourquoi là?
Bien sûr, nous comprenons qu'aujourd'hui, à notre temps, nous avons la crise familiale. C'est la crise familiale dans le monde. Et en plus, il y a plusieurs attaques à l'Église chrétienne. Et moi, je peux vous dire qu'à l'éveil du Concile, un groupe homosexuel a adressé une lettre aux participants du Concile avec l'exigence d'étudier les questions de la possibilité du mariage homosexuel dans l'Église orthodoxe. Comment on dit, le Concile, dans ces documents, donne la réponse pour tout le monde et pour les personnes homosexuelles, la réponse exacte. L'Église orthodoxe accepte le mariage seulement entre un seul homme et une seule femme. Non, je peux vous lire si vous voulez. Nous pouvons lire de manière plus haut. L'Église orthodoxe considère l'union indéfectible liant l'homme et la femme dans l'amour comme un grand mystère du Christ et de l'Église. C'est la réponse de Politesse. Elle s'intéresse à la famille qui en résulte. Bien sûr, en notre temps, nous pouvons constater la crise familiale et à chaque confession, et l'Église orthodoxe aussi. Bon, ça c'est clair. Nous attendons toujours, bon, dans les médias, les opinions des autres groupes, y compris des groupes homosexuels, bon, qui provoquent les attaques contre les... L'Église orthodoxe, c'est pourquoi vous êtes contre, là, 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 là. Bon. Dans le bas de la Bible, nous ne trouvons pas des autres solutions. Sur les questions de l'œcuménisme. Moi, je peux vous que, relire ces textes de notre concile parce que c'est plus facile de comprendre. Mais moi aussi, je suis désolé que dans ces encycliques, ces textes, il y a beaucoup de paroles en général, etc. Donc, nous avons le document, les relations de l'Église orthodoxe avec l'Assemblée du monde chrétien. Et dans ce document, nous trouvons plusieurs thèses. Priant sans cesse pour l'union de tous, l'Église orthodoxe a toujours cultivé le dialogue avec ceux qui sont partis lointains et proches. Elle a participé au mouvement œcuménique dès sa naissance. L'Église orthodoxe a toujours combattu pour le rétablissement de l'unité chrétienne. Les dialogues théologiques actuels de l'Église orthodoxe, ainsi que sa participation au mouvement œcuménique, s'appuient sur la conscience même de l'orthodoxie et sur son esprit œcuménique dans le but de rechercher sur la base de la véritable de la foi, de la tradition de l'Église ancienne, des sept conciles œcuméniques, l'unité de tous les chrétiens. Dans cet esprit, toutes les saintes églises orthodoxes locales participent activement aujourd'hui à des dialogues théologiques officiels et à la majorité d'entre elles et différents organismes interchrétiens. Il est évident que l'Église orthodoxe, tout en dialoguant avec les autres chrétiens, n'ignore pas les difficultés liant à une telle entreprise. L'Église orthodoxe accorde une grande importance au dialogue, notamment avec les chrétiennes hétéro-orthodoxes. Moyen ce dialogue, les autres chrétiens connaissent désormais mieux l'orthodoxie et la pureté de sa tradition. Ils savent aussi que l'Église orthodoxe n'a jamais accepté le minimalisme théologique ou la mise en doute de sa tradition dogmatique et de son ethos évangélique. Les dialogues entre chrétiens furent une occasion pour l'orthodoxie de souligner le respect dû à l'enseignement des pères, de témoigner valablement de la tradition authentique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Il faut bien sûr savoir que l'Église orthodoxe est impliquée dans de nombreux dialogues et dans des groupes œcuméniques. Bien sûr, nous avons de nombreux contacts avec l'Église catholique et avec des autres églises. Par exemple, pour le sujet des églises protestantes, vous savez qu'il y a l'organisme qui s'appelle le Conseil œcuménique des Églises, où l'Église catholique ne participe pas, mais il y a beaucoup de l'Église protestante de toute mosaïque. Donc, un des principaux organes du mouvement œcuménique contemporain est le Conseil œcuménique des Églises, CE. Certaines églises orthodoxes ont été membres fondateurs de ce conseil et par la suite, toutes les églises orthodoxes locales en sont devenues membres. Le Conseil œcuménique des Églises ainsi que d'autres organismes interchrétiennes et organismes régionaux tels la Conférence des Églises européennes, le Conseil d'Églises du Moyen-Orient et le Conseil pan-africain des Églises remplissent une mission fondamentale dans la promotion de l'unité du monde chrétien. Mais par exemple, en ce qui concerne le conseil œcuménique des églises, alors notre concile pan-orthodoxe de Crète a déclaré directement le COE n'a rien d'une sous-église et ne doit en aucun cas le devenir. Il faut bien, c'est bien comprendre. Les membres du concile pan-orthodoxe en Crète en 2016 n'ont pas caché qu'ils trouvent une crise dans le mouvement œcuménique. Mais malgré cette crise du mouvement œcuménique, dans le texte de notre concile, c'est le texte qui s'appelle la révélation de l'Église orthodoxe avec l'ensemble du monde chrétien, à la fin, nous lisons. Nous prions pour que les chrétiens œuvrent en commun afin que le jour soit proche où le Seigneur comblera l'espoir des églises orthodoxes. Un seul troupeau, un seul pasteur ou un seul berger. Par cette phrase, je voudrais terminer mes paroles et à la fin, je voudrais vous présenter deux livres. Un premier livre qui s'appelle Bartholomée, apôtre et visionnaire. C'est la biographie de notre patriarche œcuménique Bartholomée, où il y a la préface du pape François. La deuxième livre qui s'appelle « À la rencontre du mystère, comprendre le christianisme orthodoxe aujourd'hui », l'auteur, notre patriarche œcuménique Bartholomée. Je vous présente ces deux livres. Vous pouvez, si vous voulez, si vous pouvez trouver ces livres ou à notre église à Biarritz ou à la bibliothèque de ce monastère à Biloc. Cher père Joël, s'il vous plaît,
pour votre bibliothèque.
Merci. Voilà.
On va arrêter là.
Hein?
On va arrêter là.
C'est pour vous.
Sans anticiper sur le débat de cet après-midi, puisqu'il reste plus de 5 minutes, est-ce qu'on pourrait demander à Père Georges, vous avez dit la crise reconnue dans l'Église orthodoxe de l'écuménisme. Néanmoins, je crois que le concile que vous avez présenté s'est engagé officiellement avec toute l'Église en faveur de l'écuménisme. Et ça, je crois que ça a été quand même un grand pas en avant de l'Église. Est-ce que vous pourriez juste, en deux mots, dire cela? Non. Parce qu'il y avait beaucoup de résistance, je crois. Est-ce que ça peut se dire en deux mots, ou bien est-ce que s'il faut plus...
Beaucoup de résistance pour quel sujet?
Pour l'écuménisme.
Beaucoup de résistance?
Oui.
Aujourd'hui? Ah oui, ça c'est clair. C'est clair que nous avons entendu de les paroles de Père Serge. Qu'il y a en Russie, à la Grèce, il y a des groupes traditionnalistes à l'orthodoxie. Qui refusent d'accepter l'œcuménisme et l'unité des chrétiens, etc. Mais comment vous expliquer? Moi je trouve beaucoup de problèmes psychologiques. Pourquoi dans ce sujet? Parce que, par exemple, au centre de la Russie, au bord de rivière Volga, en Sibérie, au nord de la Russie, les chrétiens orthodoxes ne voit personne catholique. Vous comprenez? Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'Église catholique, etc. C'est pourquoi c'est un... À la Grèce aussi, il y a plusieurs villes et petits villages où les habitants habitent dans la vie très privée. Et ils n'ont pas les personnes catholiques ou protestantes. Jamais. Jamais. De même manière dans les territoires de Géorgie aussi. Voilà, en Géorgie, il n'existe pas l'Église catholique. Voilà. Ces problèmes psychologiques. D'abord, nous, à mon avis, nous avons... les problèmes de stéréotypes de Moyen-Âge. C'est vrai. De période de croisade, etc. Et ces stéréotypes vivent jusqu'à notre temps. Ça, c'est clair. Troisième problème, ce que je trouve, et moi, je pense, c'est sûr, et dans les séminaires, de l'Église orthodoxe et du séminaire de l'Église catholique et protestante, nous n'avons pas bon livre, bon manuel pour sujet de l'histoire de Christianisme, de l'histoire de l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, nous n'avons pas de vraie l'histoire de schisme des églises. Ça, c'est clair. Par exemple, beaucoup d'orthodoxes russes et beaucoup d'arméniens ne comprennent pas les différences entre les églises. Nous avons la même vie canonique. Voilà. Et pourquoi nous ne pouvons pas participer à l'église arménienne pour la communion, etc. Nous ne comprenons pas. Les fidèles arméniens aussi. Parce qu'en Russie, il y a 2 millions d'arméniens qui habitent en Russie. Voilà. Les mêmes situations au Proche-Orient. Quand il y a une école pour tous les chrétiens, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il y a ces écoles. Par exemple, au territoire palestinien, à Damas, il y a une école chrétienne pour toutes les confessions. Mais comment expliquer pour les enfants que ton ami avec ses parents doit aller à l'église syriaque, toi avec tes parents dois aller à l'église grecque ou à l'église arménienne ou à l'église catholique? C'est difficile, c'est vrai. C'est pourquoi je dis que nous vivons dans beaucoup de stéréotypes. Mais ce problème, vrai problème de nos séminaires. Parce que nos prêtres aussi, ils font ces études, mais parmi ces études, ce qu'ils comprennent, que les différences entre sujets dogmatiques, entre sujets canoniques, etc. Ils ne nous apprennent pas l'histoire du christianisme. Les uns les autres. Ça, c'est un vrai problème. Nous avons, en plus, nous avons les problèmes de, comment vous dire, nous, aujourd'hui, c'est bien. Nous, il y a certains prêtres, moi, et beaucoup de laïcs. Mais il y a beaucoup de conférences où participent que des théologiens. Des théologiens. Bien sûr, il faut avoir ces conférences, c'est l'organisme où les théologiens participent. Mais vous voyez, il y a, si je me souviens, il y a 5 ans, j'ai entendu que dans la commission catholique orthodoxe a abordé les questions de rôle de premier évêque à l'église au premier millénaire. Passé 5 ans, n'ont pas de résultat. Non, n'ont pas de résultat parce que, à mon avis, pour beaucoup de l'homme scientifique, c'est un jeu. C'est vrai qu'on compte comme un jeu. Bon. C'est un bon. Il préfère de pénétrer, ben, cherche. Mais ouais. Nous attendons quelques décisions. Nous avons. C'est pourquoi. Notre grand théologien de notre temps, Père Alexandre Schmemann, bien annoncé que la théologie dans toutes les confessions s'oppose dans grande distance de la vie chrétienne aujourd'hui. Il y a la vie de l'Église, mais il est comme indépendant la vie de théologie. La vie de théologie, beaucoup d'instituts, de l'université chrétienne à chaque pays, beaucoup de doctorats de théologie, etc. Jusqu'à aujourd'hui, non, pas. Il y a beaucoup de livres, etc. Bon, ah là là. Et nous ne pouvons pas trouver quelques chemins de l'unité. C'est vrai problématique, parce que. Et à l'orthodoxie et à l'église catholique et dans les familles protestantes, et il y a beaucoup de théologiens qui qui ont l'amitié les uns les autres, mais pas avec les églises. C'est un grand concile de théologiens, et c'est tout. Et c'est tout. Ils n'ont pas de résultats. Nous avons que des livres, édités beaucoup de livres, beaucoup de livres, beaucoup de thèses, beaucoup de doctorats, mais il n'y a pas de vrais théologiens. Voilà.